carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, démocratie, économie, gestion des migrations. Où va la Tunisie? Le pays élira son président le 6 octobre prochain. Trois candidats en lice, un grand favori, le chef de l'État sortant, Kais Saied, et des sujets de préoccupation qui ne manquent pas. Nous en parlons avec notre invité Hatem Nafti, auteur d'un nouvel essai sur le régime tunisien, notre ami Kais Saied aux éditions Rive-Neuve. Bienvenue.
Bonjour.
Mais d'abord, nous partons à Tunis en compagnie de notre correspondante Amira Souileb. Tunis où vit la famille de Sonia Damani. Sonia Damani, c'est cette avocate qui a été arrêtée en mai dernier par des hommes en cagoule devant les objectifs de nos confrères de France 24. Les images avaient alors fait le tour du monde. Près de 5 mois plus tard, Amira Souileb est allée à la rencontre de ses proches.
Ça, c'est le couffin. La salade est déjà prête. Et on a trois boîtes à remplir avec des fruits, avec les plats qu'on prépare.
Aujourd'hui, c'est jour de parloir. Dans la cuisine, tous s'activent. Il y a Semia, la cuisinière, Sabiha, la mère, et Mehdi, le frère de Sonia. Ensemble, ils préparent la koufa, comme on dit en Tunisie. Un couffin garni des plats préférés de Sonia Damani.
Lundi, c'est un petit peu le remue-ménage pour préparer le couffin à l'heure. D'après ce que nous disent les avocats, elle est dans une cellule à peu près de 20 mètres carrés. Elles sont 6 personnes dans des conditions hygiéniques assez effroyables. Si on peut lui donner, justement, grâce à ce couffin, quelques minutes de plaisir, c'est toujours ça de gagner. Hein. C'est toujours ça.
À 81 ans, Sabiha Damani n'a pas vu sa fille depuis 6 semaines. Malentendante, malvoyante, elle a refusé de lui parler derrière une vitre et a demandé au juge une autorisation exceptionnelle pour la toucher, la prendre dans ses bras.
On demande au juge, le juge doit accepter, la directrice de la prison doit aussi donner son accord afin qu'on puisse la voir de près, l'embrasser, lui poser des questions sur sa santé, sur son mental, ce qu'elle pense et tout. Derrière une vitre, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut, de se conduire comme elle veut. Alors, là, je réalise que vraiment, elle est emprisonnée comme une criminelle.
Arrêtée suite à des propos ironiques en lien avec la situation politique de son pays, Sonia Damani a été arrêtée au siège même de l'Ordre des avocats en plein Tunis. Son frère Mehdi visionne la vidéo de l'arrestation. Il a conscience que parler du cas de sa sœur peut lui causer des ennuis.
C'est risqué. Tout est risqué aujourd'hui en Tunisie. Tout est risqué. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit subir et se taire? Eh ben, c'est pas dans nos gènes, ça.
Le couffin est fin prêt.
Présidentiel qui s'arroge tous les pouvoirs.
En route pour la prison avec son père, Ramla Damani, la sœur cadette, avoue trouver le temps bien long, d'autant que l'avocate aurait subi de mauvais traitements en prison.
Elle m'a raconté la fouille intime qu'elle a subie. Et c'est très difficile de garder le sourire et de continuer à l'encourager quand votre sœur vous raconte qu'elle subit une torture à l'intérieur.
Après des semaines d'incertitude, Sonia Damani a été jugée et condamnée à 8 mois de prison. Ramla accuse le coup, d'autant que sa sœur est poursuivie dans 4 autres affaires, d'opinion aussi.
Sonia encourt en tout une quarantaine d'années de prison. Si on les met bout à bout, c'est évidemment le maximum. Mais sur le papier, oui, c'est ce qu'elle encourt. Aujourd'hui, quand vous dites un mot, vous encourez un minimum de 5 ans de prison. Et c'est ce que Sonia subit.
Malgré des conditions de détention décrites comme très difficiles, la famille assure que Sonia Dahmani n'a rien perdu de sa verve.
Hatem Nafti, est-ce qu'on sait combien de personnes ont été arrêtées en Tunisie pour des délits d'opinion récemment ? Combien sont derrière les barreaux ?
Alors, il est très difficile d'estimer ce chiffre pour une raison simple, c'est que le décret 54, donc, qui est largement utilisé, donc je rappelle, c'est un texte qui a été édicté par Kais Saied en l'absence d'un parlement. Et ce texte-là, il est utilisé contre tout le monde, contre des citoyens lambda, mais aussi contre des journalistes et des politiques, mais rarement ou quasi jamais contre des personnes qui soutiennent le régime. Dans mon livre, j'ai essayé d'estimer le nombre. Donc on a deux choses. On a des ONG qui documentent des cas, donc qui peuvent vous donner les cas qu'elles ont documentés. Et là, ça varie. Pour Amnesty International, je pense qu'on est autour de 60. Pour la Ligue des droits de l'homme, il y a une estimation qui me semble un petit peu plus réaliste, qui est de 300 arrestations. Ça, c'était au mois d'août, au moment où je bouclais mon livre.
La question de la liberté d'expression en Tunisie, c'est une question qui est particulièrement sensible ces derniers mois. On l'a vu avec ce décret 54. Mais la répression des libertés, elle ne concerne pas uniquement la liberté d'expression.
Non, la répression des libertés concerne tout ce qui s'oppose à ce régime qui, paradoxalement, a bénéficié du cadre libéral qu'a connu la Tunisie entre 2011 et 2021. La Tunisie, sous Ben Ali notamment, était très mal classé, notamment dans le classement de RSF. Ben Ali était connu pour la censure d'Internet, enfin pour plein de choses comme ça. Et il y a eu un cadre très libéral qui a été mis en place depuis 2011, où on est vraiment au niveau des standards internationaux, où on ne condamne pas à de la prison pour des délits de presse. Et donc, on disait souvent, au moins, on a gagné la liberté d'expression. Kais Saied lui-même, d'ailleurs, dans le débat de l'entre-deux-tours en 2019, il a sorti cette image du 14 janvier, donc le jour de la chute de Ben Ali, où il y avait un manifestant qui brandissait un oiseau dans une cage et qui a ouvert cette cage. Il a dit, voilà, l'oiseau qui a quitté la cage ne pourra jamais y retourner. Paradoxalement, Kais Saied est le produit même de la liberté d'expression de la décennie post-révolutionnaire, et c'est lui qui referme la parenthèse libérale. Effectivement, ça va au-delà de la simple liberté d'expression. Aujourd'hui, c'est toute opposition à ce régime qui est fortement réprimée.
L'autre grand sujet de préoccupation aujourd'hui, et puis après on rentrera un peu dans les détails, mais c'est ce virage raciste du régime, mais peut-être pas simplement du régime actuel, peut-être de toute la Tunisie qui se découvre avec une attitude très anti-migrant qui a beaucoup surpris à travers le monde.
Alors il y a deux choses. Il y a une lame de fond qui ne concerne pas du tout la Tunisie. Nous sommes bien placés ici en Europe pour voir la déferlante raciste et la déferlante xénophobe. Donc la Tunisie n'est pas une île, donc n'est pas à l'abri de ça. En revanche, ce qu'on a constaté après la chute de Ben Ali, c'est qu'il y avait une sorte de non-dit, notamment par rapport à la question de la négrophobie. C'est une question qui n'a jamais été réellement traitée auparavant. Et donc c'est à partir de 2011, avec justement la libéralisation de la vie politique et de la vie associative, qu'il y a eu des associations spécifiquement de lutte contre la discrimination des personnes noires. Petit à petit, on a pu documenter des cas, même flagrants, de racistes. On a commencé
sortir du déni.
On a commencé, vraiment, à sortir du déni. Malheureusement, il y a eu la liberté, ça profite à tout le monde. Ça a aussi permis la création, notamment, d'un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle le Parti National Tunisien, qui a développé cette théorie qui est une adaptation à la sauce tunisienne de la théorie du grand remplacement. Et donc, qui a trouvé, en tout cas, un certain écho chez Kais Saied, le président de la République. Cette théorie très efficace du grand remplacement, elle est totalement adaptée à un concept tunisien, au contexte, pardon, tunisien. Ils établissent un parallèle avec ce qui s'est passé en Palestine, c'est-à-dire le développement du mouvement sioniste et son installation en Palestine. En gros, ce qu'on disait, c'est que le mouvement sioniste, c'est deux choses. C'est d'une part la volonté de la création d'une entité juive, sur, en l'occurrence sur la terre de Palestine, mais c'était aussi l'antisémitisme européen du 19e siècle qui a poussé à ça. Et donc, adapté à un contexte tunisien, ce qu'on disait, c'est qu'il y a une xénophobie et notamment une négrophobie en Europe et on veut de plus en plus se débarrasser des migrants. Et là, les déclarations d'hommes politiques européens sont légion, donc c'est très facile à trouver. On a ça et on a une ultra-minorité de ce qu'on appelle des panafricanistes qui, eux, estiment que tout le continent doit être noir et que des personnes comme moi, donc d'origine nord-africaine, berbère, arabe, etc., nous ne sommes que des colons un petit peu plus vieux que les autres, mais des personnes qui avons colonisé l'Afrique du Nord et donc dont il faut se débarrasser. Je répète, c'est un mouvement ultra-minoritaire, mais ça a permis à ce groupuscule d'extrême droite de développer ce qu'on appelle un millefeuille argumentaire, de dire, voilà, de bricoler une théorie du complot qui a bien marché et qui a dit, voyez, les Palestiniens aussi, au début du XXe siècle, ne voyaient pas la menace qui les guettait, donc ne soyez pas les futurs Palestiniens. La question palestinienne est très importante pour les Tunisiens, et donc jouer sur ça, ça a rendu la question très populaire. Et le dernier élément, c'est le président de la République.
C'est ça qui est quand même
une figure tutélaire qui va valider toute cette théorie du grand remplacement. Il en est revenu, il n'a plus du tout redit ça après. Hein. Il est totalement revenu, et c'est l'une des rares fois où il a reculé sur quelque chose. Mais le mal était fait, et malheureusement, ça ne fait que renforcer l'idée que Kais Saied est l'une des rares personnes qui se bat contre ça.
Atem Nafti, le président Kais Saied s'est taillé une présidentielle sur mesure pour le 6 octobre. Dernier élément en date, c'est la modification du code électoral. C'est du jamais vu.
C'est absolument du jamais vu. Moi, j'ai vécu 25 ans en Tunisie. J'ai grandi sous le régime autoritaire de Ben Ali. On avait également des simulacres d'élections. Ce n'est pas nouveau. Mais si vous voulez, il y a une tradition un petit peu légaliste en Tunisie, c'est-à-dire qu'on respectait les formes, donc on savait que tout était fait pour empêcher l'opposition, mais il y avait des règles qui étaient établies en amont, etc. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est quelque chose de totalement inédit, c'est-à-dire que toute l'opposition a été éliminée avec des dossiers, enfin c'est devenu caricatural. Donc il y avait une véritable volonté par une justice qui a été mise au pas, hein, très important. Kais Saied, la première des choses qu'il avait dites le 25 juillet, il a dit « je gèle le Parlement », il a dit « je voudrais devenir le procureur général ».
En 2021.
En 2021, le 25 juillet, le jour où il a fait son coup d'État, il avait cette intention. Et il a tout fait pour éliminer donc l'indépendance ou le peu d'indépendance de la justice qu'on a réussi à obtenir, notamment un conseil supérieur de la magistrature élu par des professionnels de la justice.
C'est assez paradoxal pour un professeur de droit et de droit constitutionnel comme lui.
Tout le monde disait qu'il était effectivement, c'était un très bon prof, il enseignait le droit constitutionnel. Et ce qu'on me dit aussi souvent, c'est pendant 30 ans, il nous a enseigné des choses qu'il a transgressées méthodiquement depuis qu'il a pris les pleins pouvoirs. Et donc c'est quelque chose, effectivement, c'est une des énigmes de ce personnage. Il s'est méthodiquement affranchi de toutes les règles qu'il a professées pendant des années.
Parmi les clés pour comprendre Kais Saied que vous détaillez dans votre livre, notre ami Kais Saied aux éditions Rive-Neuve, il y a le complotisme sur lequel vous revenez très longuement.
À ma connaissance, je n'ai jamais vu un régime qui utilise à ce point le complotisme. C'est vraiment un mode de gouvernement. Je le distingue par exemple d'un Trump, d'un Bolsonaro. Il y a un narratif depuis le 25 juillet 2021 qui dit globalement qu'il y a un complot généralisé contre le peuple tunisien par des cinquième colonne, si vous voulez, par des ennemis de l'intérieur, mais aussi des ennemis de l'étranger, et que tous les dysfonctionnements qu'il y a dans ce pays s'expliquent par un complot. C'est-à-dire que l'économie, aujourd'hui, par exemple, il y a des pénuries alimentaires, c'est parce qu'il y a des personnes qui agissent pour que vous n'ayez pas suffisamment de farine pour avoir du pain, et ce sont des personnes qui sont liées à l'ancien régime, aux agents extérieurs, etc., etc. Et tout est expliqué par ça.
Dernière question. On voit bien que l'Europe s'interroge, mais du bout des lèvres, sur la ligne à tenir vis-à-vis de Tunis.
Alors, deux choses. Je pense qu'il y a une sorte d'alignement des planètes, de régimes totalement opposés, hein, et même de partis totalement opposés, qui trouvent une sorte de convergence pour soutenir ce régime. Pour l'Europe, la question migratoire passe avant tout, et Kais Saied est un très très bon garde-frontière. Pour les pays arabes, ça fait depuis le départ de Ben Ali, il fallait en finir avec cette parenthèse libérale, cette anomalie tunisienne. Donc l'intérêt est assez clair, notamment pour l'Algérie, qui trouve aujourd'hui un pays totalement aligné sur ses positions. Pour les États-Unis, par exemple, la Tunisie doit rester dans le giron occidental et malgré tout le discours qui peut paraître anti-occidentaliste, la Tunisie n'a jamais été aussi proche de l'Occident.
Malgré les relations avec les Chinois,
mais ce sont
avec
des fausses relations. En réalité, c'est plus dans le symbole, je vois, et je crois que le régime en joue. C'est-à-dire, vous allez voir, nous allons aller vers la Chine, nous allons aller vers la Russie, mais en fait, la Chine et la Russie n'y tiennent pas plus que ça. La Chine, par exemple, a refusé d'aider formellement la Tunisie. L'idée de la Tunisie, c'était d'arrêter avec le FMI et d'aller vers les pays du BRICS. On a une déclaration de l'ambassadeur de Chine en Tunisie qui a dit « Oui, mais allez signer avec le FMI et on en discutera ». C'est-à-dire la Tunisie n'a pas le poids suffisant pour que la Russie, qui est occupée dans une guerre, et la Chine, qui est occupée dans un autre type de guerre, s'y intéressent plus que ça. C'est-à-dire que ça reste un petit pays d'Afrique du Nord, donc ça n'a pas le poids géostratégique qui ferait que les Russes se disent « Ah, il faut investir sur la Tunisie ». Mais c'est suffisant pour effrayer les Occidentaux, pour leur dire « Attention, on va se tourner vers l'Est ». Et donc, et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs il y a eu un rapport confidentiel de l'Union européenne qui a fuité dans la presse internationale, qui dit « En gros, on s'inquiète de la situation, mais la Tunisie doit rester dans le giron occidental, et donc on peut quelque part tout lui passer ».
Et bien on suivra cette élection donc le 6 octobre et notamment le taux de participation qui sera un bon indicateur de la popularité du régime. Merci beaucoup Hatem Naftish.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, notre ami Kaïs Sayed, Essai sur la démocrature tunisienne, et c'est aux éditions Rive Neuf.
Merci. تالف على ايام الدير شارده في افكار الليل والليل يطويل هاي جات الايام اخذتنا في موج قبيح رمتنا واحنا صابرين في سكات بارده في ظلام تحس خايفنا على الشمس تغيب والنوم قليل اي ما زادت بردي جافي العدو لحبيبي واسي وانا مشتاق لناسي يا سيدي داوي حالي سيدي داوي حالي يا سيدي داوي حالي سيدي داوي حالي هاي تالف على ايام الدير شاردة في افكار الليل والليل طويل هاي باردة في ظلام تحس خايفنا على الشمس تغيب والنوم قليل هاي تالف على ايام عديت سنين حواس هاي تالف على قدامنا وحنا صبرين في سكات وكان الوقت فاتنا كملوا مكتوب ايامنا صبر وشدة في الله Nour Arkati avec Sidi, son nouveau titre, Carrefour du Maghreb, à la réalisation. Diego Tenorio, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Silvère Henri Cissé pour l'Afrique en jeu. À bientôt. وانا مشتاق لناسي يا سيدي داوي حالي